VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Libreville. Bienvenue à notre journal. Corruption au Gabon, la vaste opération anticorruption lancée récemment contre son entourage a finalement rattrapé l'ancien tout-puissant directeur de cabinet du président Ali Bongo Ondimba, à savoir le franco-gabonais Brice Lacrouche Alianga. Écarté définitivement du gouvernement lundi soir lors d'un remaniement qui a également purgé le cabinet de ses derniers proches, M. Lacrouche Alianga a finalement été interpellé mardi à son domicile, selon le procureur de la République de Libreville, André Patrick Ropona. Et il a été entendu par les enquêteurs, a souligné ce magistrat. En République démocratique du Congo, le calme est revenu à Beni, province du Nord Kivu dans l'est du pays. L'armée nationale congolaise a mis à la disposition des habitants un numéro vert pour dénoncer les membres présumés des groupes armés dans la région. Le point avec Eddy Sango.
Le calme est revenu hier à Beni. Les commerces et les marchés ont rouvert et les taxis-motos ont circulé comme d'habitude. La veille, la police a procédé à des tirs d'exhumation pour disperser les manifestants. Il y a eu 5 morts, un policier et 4 civils, selon Kumbungoma, procureur militaire de Beni. Les populations ont souvent manifesté pour dénoncer l'inaction des casquets bleus et des autorités face à des massacres des civils. Beni vit dans la psychose des attaques attribuées aux rebelles ADF qui ont tué plus de 100 personnes en un mois. L'armée congolaise a assuré hier avoir tué 80 rebelles ADF, dont 4 des 6 chefs, et affirme avoir repris des bases des ADF près de Beni. Si vous voyez un visiteur sans que vous sachiez qui il est, nous vous donnons un numéro vert. Plus 243 82 08 00 05, a déclaré le général Léon Richard Kasonga, porte-parole de l'armée. Il a ajouté que 8 militaires ont été lynchés en 3 jours par la population qui les avait pris pour des rebelles ADF.
Au Soudan, une enquête est en cours sur l'incendie dans une usine du nord de la capitale Khartoum qui a fait au moins 23 morts et plus de 130 blessés mardi. Les détails avec Eric Manirakiza.
Selon le gouvernement, cet incendie a été provoqué par l'explosion d'un camion-citerne contenant du gaz dans une zone industrielle. Une épaisse fumée noire s'est élevée dans le ciel durant l'incendie. Un réservoir de gaz était encore en flammes au moment où des pompiers sont entrés en action. Le gouvernement a rapporté que la propagation du feu a été facilitée par des produits inflammables mal rangés et qu'il manquait du matériel de sécurité dans l'usine. Les blessés ont été transportés vers plusieurs hôpitaux et des médecins qui étaient en repos ont été appelés en renfort. L'explosion a été forte et plusieurs véhicules garés à proximité ont aussi pris feu, a indiqué un employé d'une société voisine. Le bilan risque de s'alourdir.
Au Sénégal, le tribunal de la ville de Louga, dans le nord-ouest du pays, a condamné ce mercredi à 2 ans de prison avec sursis le maître d'une école coranique où les élèves fugueurs étaient enchaînés. Une affaire divisant profondément le pays entre tradition et droits de l'enfant. La même peine de 2 ans avec sursis a été infligée aux 5 co-prévenus du maître de l'établissement d'enseignement, à savoir les 4 pères et mères des enfants enchaînés et le forgeron qui a fabriqué les chaînes. Tous ont été arrêtés fin novembre après la découverte fortuite que plusieurs enfants de l'école coranique de Ndiaye avaient les pieds entravés. Les prévenus ont déclaré au tribunal la semaine dernière que les enfants étaient enchaînés à la demande des parents parce qu'ils fuguaient. Les prévenus ont aussi souligné qu'ils ignoraient qu'enchaîner une personne était interdit par la loi. L'affaire a déchaîné les passions dans un pays très majoritairement musulman qui compte des milliers d'écoles coraniques ou d'aras, mais qui est aussi touché par l'évolution des mœurs. Politique au Mali voisin, un des groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015 au Mali, le Mouvement national pour la libération de l'Azawad, MNLA, a prôné mardi la fusion des différents groupes qui représentent le nord malien, emboîtant le pas ainsi à une autre composante importante de l'ex-rébellion à dominante Touareg. Réunis au congrès à Kidal depuis le 30 novembre, les membres du MNLA, à tendance indépendantiste, sont appelés dans leur déclaration finale à la fusion dans les meilleurs délais de tous les mouvements composant la CMA, la coordination des mouvements de la ZAWAD, au sein d'une seule organisation politico-militaire.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Politique en Guinée-Bissau maintenant, deux anciens premiers ministres, Domingos Simões Pereira et Umaro Wembaro Sissoko, s'affronteront au second tour de l'élection présidentielle le 29 décembre. Deux produits du système politique bissau-guinéen vont donc se disputer la succession du président sortant José Mário Vaz, qui n'a pas franchi le cap du premier tour. Sur les deux candidats en lice, au second tour, Idriss Fall a joint sur place Domingos Simões Pereira, arrivé en tête du premier tour.
Pour moi, les élections présidentielles, c'est pas pour battre les autres candidats, c'est pour être une alternative positive envers les attentes du peuple bissau-guinéen. En tout cas, j'ai présenté un projet politique. J'ai fait de telle façon que le peuple bissau-guinéen soit informé de mon projet de l'avenir pour la Guinée-Bissau. Et sur cette base que je crois pouvoir rassembler la majorité d'approbation des électeurs bissau-guinéens envers mon projet. Mon défi, c'est d'être capable d'être en mesure des attentes des Bissau-Guinéens, beaucoup plus que de me concentrer sur l'autre candidat, d'autant plus que je ne connais pas son passé politique, je ne connais pas ce qu'il propose pour la Guinée.
Vous aurez besoin d'avoir des alliances quand même, vous étiez 12 candidats. Est-ce qu'il y a déjà des candidats qui sont ralliés à votre programme?
Il y a plusieurs candidats, mais j'ai dit depuis le début que pour moi, les élections, il ne s'agit pas d'un concours entre des candidats, il s'agit d'avoir un compromis avec le peuple bissau-guinéen, et c'est sur ça que je base la stratégie de ma candidature.
Une fois que vous êtes élu, quel sera le premier et le plus grand défi auquel vous pensez que votre pays devra faire face?
Sans aucune doute, mon premier défi est d'adresser un message fort au peuple bissau-guinéen, un message qui rassure les uns et les autres, que je veux être un président de la République pour tout le peuple bissau-guinéen. Il y a un message de confiance, d'espoir, de convocation à tout l'ensemble de la population bissau-guinéenne, qu'on doit être capable de bâtir un pays qui donne à tous ses citoyens l'opportunité de réaliser leurs rêves et leurs chances.
Mais vous avez beaucoup de défis. Les fonctionnaires ne sont pas payés, tout le monde est en grève, les hôpitaux ne marchent pas, l'école, les enseignants ne savent plus donner de la tête. Vous allez commencer par quoi d'abord? Parce qu'il y aura beaucoup de problèmes à résoudre.
Mon frère, en 2014, le cadre était le même. Quand j'ai pris la tête du gouvernement en juillet 2014, il y avait 7 mois d'arriéré de salaire, il n'y avait pas d'école, il y avait une menace d'Ebola, l'électricité ne marchait plus. Donc en juillet 2014, en 7 mois, on a réglé tous les arriérés, on a mis l'électricité 24 sur 24 dans la capitale, et on l'a amené à 28 autres localités de l'intérieur du pays qui ne l'avaient pas connu depuis l'indépendance. Donc, je pense que j'ai un bilan qui parle pour moi. Les Bissau-Guinéennes connaissent cet bilan. Et je pense qu'une fois à la présidence de la République, je serai en condition d'ouvrir avec le gouvernement pour qu'on mette ça à l'avantage de la population bissau-guinéenne.
Domingos Simões Pereira, candidat à la présidence de la Guinée-Bissau. Actualité hors d'Afrique pour terminer, le sommet du 70e anniversaire de l'OTAN se termine aujourd'hui à Londres. Hier, le président américain Donald Trump et son homologue français Emmanuel Macron ont étalé leurs désaccords sur de nombreux sujets. Le point avec Lionel Gaïma.
Le président français Emmanuel Macron avait jugé que l'Alliance est un état de mort cérébrale et hier, il a maintenu ses propos. Donald Trump les a qualifiés de très insultants et de très méchants à l'adresse de 28 pays. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, s'est dit lui aussi en désaccord avec le président français. Monsieur Trump a lancé une nouvelle salve contre les mauvais payeurs, notamment l'Allemagne. Il a maintenu la pression sur les alliés pour leur faire respecter l'engagement de consacrer 2% de leur PIB au budget de l'OTAN en 2024. Nous devons initier un dialogue sans naïveté avec la Russie pour réduire la conflictualité avec ce pays, a soutenu le président français. Depuis Moscou, Vladimir Poutine s'est dit prêt à coopérer avec l'Alliance Atlantique, tout en dénonçant son comportement grossier. Les dirigeants de l'OTAN réunis à Londres doivent signer aujourd'hui une déclaration qui reconnaîtra les opportunités et les défis posés par le sort de la Chine.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.